BS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Alors, on va parler politique avec notre analyste politique ici, Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Alors, on va parler politique parce que il y a les élections législatives. On en avait parlé depuis un petit moment, puis c'est arrivé très vite. On vote dimanche, premier tour, dans la 11e circonscription, la plus grande circonscription au monde en termes de géographie, mais une grande circonscription pour les Français de l'étranger.
Oui, exactement. Alors, on va le rappeler, les élections pour les Français de l'étranger sont les 4 et 18 juin. Donc ce dimanche et dimanche 18 juin, alors que les élections pour les Français de France métropolitaine
et Français de Navarre
et des territoires d'outre-mer sont le 11 et 18 juin. Donc effectivement, dans quelques heures, quelques jours, on va voter. Et vous avez raison, la 11e circonscription des Français de l'étranger, c'est une des plus vastes en termes de superficie. Elle comprend notamment 49 pays répartis entre l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Océanie. Mais c'est une des circonscriptions où il y a le moins de Français installés, mais surtout le moins d'inscrits, puisqu'on compte à peu près 150 000 Français installés et à peine 92 000 inscrits au 1er janvier 2017. C'est une grande circonscription, et puis d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est une justification suffisante, mais c'est vrai que c'est une circonscription qui est peut-être la plus éloignée de France métropolitaine, donc celle où les Français se sentent peut-être le moins redevable vis-à-vis de la France de devoir voter. Elle est peut-être plus elle est effectivement plus éloignée par exemple que la circonscription des Français installés
à Londres
ou dans d'autres pays européens. Donc mais vous avez raison, il y a un travail et qui est d'ailleurs un travail qui est remarquablement fait par les services consulaires pour inciter les Français qui vivent dans cette circonscription à s'inscrire sur la liste électorale et à participer activement à la vie démocratique française.
D'accord, alors parlons un peu des candidats. On ne va pas faire le décompte complet des candidats parce qu'il y a quand même une floraison de candidats. Il y a combien de candidats dans cette circonscription ?
Alors il y a 14 candidats dans cette circonscription. C'est un nombre assez conséquent. Il faut dire qu'il y avait déjà pléthore de candidats à la dernière élection en 2012. Très rapidement, ce qu'on peut dire, peut-être avant de rentrer dans le détail des candidats, c'est de parler un petit peu des résultats. Passé et.
D'accord. Alors, le député sortant, c'est Thierry Mariani.
Oui, tout à fait.
Des Républicains. Et il a été donc élu la dernière fois, et qui était également la première fois, parce que c'est la première fois qu'il y avait des députés, députés représentant les Français à l'étranger. C'était la première fois, les premières élections. Donc, il est candidat à sa propre réélection.
Tout à fait. Alors, il a été élu effectivement en 2012. Il n'a pas été élu avec une grande. Marge, une grande avance au second tour, puisqu'il a obtenu 52% des suffrages face au candidat PS Marc Villard. Et puis là, effectivement, il se représente pour succéder à son propre mandat dans cette circonscription-là. Ce qu'il faut dire sur les Français de la 11e circonscription, d'abord, c'est parler peut-être de la l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Mmh. Donc Emmanuel Macron, lui, au premier tour, avait obtenu 39,2% des votes. Et puis, c'est une circonscription, finalement, qui n'est pas représentative des résultats sur l'ensemble du territoire français, puisque le candidat arrivé en deuxième position était François Fillon, avec un score tout à fait honorable, puisqu'il avait obtenu 29,6% des votes. Et puis, le troisième candidat, de manière un peu surprenante, est un candidat d'un parti plutôt extrême, puisque c'est le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui lui avait obtenu 13,7% des suffrages. Et on voit bien, Marine Le Pen n'avait pas obtenu un très grand score dans cette circonscription des Français de l'étranger. Et puis au second tour, là, c'était un vrai plébiscite pour Emmanuel Macron, puisqu'il était opposé à Marine Le Pen, même si elle avait obtenu un faible score dans cette circonscription-là. Emmanuel Macron avait obtenu 87,5% des votes, et donc Marine Le Pen à peine 12,5%. Des votes lors de ce second tour des élections présidentielles.
Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose pour ces élections législatives ? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur ces chiffres ? Est-ce qu'on peut dériver quelques pensées sur le fait que les trois principaux candidats qui ont fait leur marque au premier tour de l'élection présidentielle seront également les trois principaux candidats, les trois principales listes présentes ici sur l'élection législative. Je pense pour deux, on peut être OK. Sur la France Insoumise, ça peut être un peu plus compliqué sur la région.
Vous avez raison, Christophe. Alors, sur les deux premiers candidats, enfin les deux candidats arrivés en première position à l'issue du premier tour, vous avez raison. Donc Emmanuel Macron et François Fillon. Si on prend par exemple les deux territoires, il y a plus de Français inscrits sur les listes électorales. Et donc, on peut supposer ce sont les deux territoires où le plus de Français vont se déplacer pour aller voter. Donc, en l'occurrence, l'Australie et la Chine. La Chine est le premier territoire avec à peu près 31 000 inscrits et l'Australie le deuxième avec 25 000. En Chine, Emmanuel Macron avait obtenu 45% des votes, François Fillon 36%. Et en Australie, on a à peu près dans les mêmes proportions pour Emmanuel Macron parce qu'il avait obtenu 43% au premier tour et François Fillon 20%. Donc on peut dire effectivement que pour les deux premiers candidats, on va avoir aussi une participation et un accord sur les programmes assez important. Mais effectivement, peut-être que pour la France insoumise, le score va être un petit peu plus réduit. Et on va voir, c'est souvent ce qui arrive dans les circonscriptions des Français de l'étranger, des listes qu'on peut qualifier soit de locales, soit de citoyennes, émerger et monter, sur le podium de ce premier tour. Si on reprend juste l'Australie et la Chine, il faut dire aussi qu'un des enjeux, c'est la participation. Parce que contrairement au présidentiel où on avait eu une relative bonne participation pour une circonscription des Français de l'étranger de 50% en Australie et de 62% en Chine, c'est évidemment beaucoup moins que pour la France métropolitaine. On sait très bien qu'aux élections législatives, la participation sera moindre du fait de l'éloignement et d'une certaine façon.
Le consulat pense qu'il y aura plus parce qu'ils ont ouvert un deuxième bureau.
Oui, mais le consulat pense qu'il y aura plus, mais d'une certaine façon, les Français se sentent peut-être un peu moins concernés par un député qui va devoir les représenter très loin de la France. Et j'ai envie de vous dire aussi, par exemple, si on prend le territoire australien, dans les 14 candidats, il n'y a aucun député, il y a certains suppléants, mais il n'y a aucun député qui vit en Australie.
Candidat à la députation.
Ouais. Voilà, candidat à la députation qui vit en Australie. Donc c'est aussi, pour les candidats, un véritable enjeu, c'est de faire augmenter cette participation pour les élections législatives, en tout cas garder un taux aussi important qu'il y avait eu pour les élections présidentielles.
Donc Anne Genetet pour La République En Marche, Thierry Mariani pour Les Républicains, UDI je crois d'ailleurs, il a aussi une liste conjointe avec UDI. Le troisième, ça pourrait être Florian Bohème avec sa liste PS, qui peut-être pourrait faire un meilleur score que le candidat Benoît Hamon à la présidentielle. En tout cas, il se positionne un peu différemment.
Oui, tout à fait. Florian Bohème, c'est la carte un petit peu jeunesse aussi de cette élection législative dans la 11e circonscription des Français de l'étranger. C'est un candidat PS, mais plutôt réformateur. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais en tout cas, on peut dire qu'il est plus dans une logique de rapprochement, non pas de la majorité présidentielle, mais de certaines tendances plus...
Alors c'est intéressant parce que moi je leur ai tous parlé, enfin j'en ai parlé aux trois principaux candidats et ce qui en est sorti d'ailleurs si vous écoutez les interviews, c'est qu'en fait ils sont tous prêts à travailler avec la présidence et avec la majorité présidentielle. Bon, bien entendu, du côté des Républicains En Marche, ça coule de source, mais Thierry Mariani et Florian Bohème, ils ont tous tout de suite dans le discours dit qu'ils n'étaient pas obtus. C'est là où on sent que la présidence Macron a déjà changé les choses.
Oui, et je rajouterais même qu'il y a un quatrième candidat dont on n'a pas parlé, qui est Francis Nizet, qui est d'ailleurs le seul candidat qui avait été déjà candidat en 2012, à l'époque sous une étiquette Modem, et qui là, lui, a carrément sur son affiche le logo, on peut dire l'inscription majorité présidentielle. Donc effectivement, on le voit pour les Français de la 11e circonscription, mais c'est la même chose pour les Français, les candidats en France métropolitaine. C'est l'étiquette majorité présidentielle ou prêt à travailler avec la majorité présidentielle est un véritable atout. Et d'ailleurs, même sur les affiches...
Enfin, c'est un atout pour tout le monde, mais c'est un défi pour Anne Genetet. Hein.
C'est un défi, effectivement, pour Anne Genetet. Mais d'une certaine façon, il faut absolument qu'elle capitalise, si on prend l'exemple d'Anne Genetet, sur le bon score d'Emmanuel Macron chez les Français de l'étranger aux dernières présidentielles. Donc, effectivement, aucun candidat n'a intérêt à s'afficher comme farouche opposant ou comme adversaire de la majorité présidentielle. Mais après, seul un, pour l'instant, dit qu'il fait partie de la majorité présidentielle, parce que Thierry Mariani, lui, alors, il ne met pas non plus en avant son appartenance Les Républicains sur ses affiches, mais il n'est pas non plus investi par la majorité présidentielle. Donc, effectivement, tous les candidats sont prêts à travailler avec Emmanuel Macron et la majorité présidentielle, enfin, en tout cas, ces candidats-là. Après, vous avez d'autres candidats, je pense notamment à la France Insoumise, ou aux candidats issus de mouvances plus citoyennes comme le collectif citoyen Ma Voix, par exemple, qui eux essayent de proposer une autre offre, une autre alternative. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi un autre parti politique un autre candidat à la députation qui, lui, a clairement dit, il s'agit de Myriam Alnett, de la liste Futur Pacifique, qui dit « Moi, si je ne suis pas qualifié pour le second tour, je ferai tout pour faire obstacle à Thierry Mariani. » Donc c'est aussi une stratégie pour attirer certaines voix en disant « Voilà, vous en avez un petit peu marre de la dernière mandature Thierry Mariani qui était très centrée sur la Russie et l'Europe de l'Est. Moi, je vous promets de recentrer un peu ça, peut-être sur une zone qui concerne un peu plus de Français, notamment la zone asiatique. Et puis, je m'engage surtout à me retirer ma candidature si quelqu'un est mieux placé que moi pour battre Thierry Mariani au second tour. » Donc effectivement, on voit bien que même chez les Français de l'étranger, au-delà des programmes, les stratégies politiques, elles jouent véritablement. Quid de la majorité présidentielle, quid de faire barrage à Thierry Mariani qui était déjà, qui est déjà député. Donc c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner. C'est la, vous l'aviez dit avant, c'est la deuxième fois qu'on teste d'une certaine façon ces députés de l'étranger. Et on va voir si la vague Macron et la vague La République En Marche, elle se confirme aussi au niveau des Français de l'étranger.
D'accord. Alors voilà, l'élection, c'est donc bien entendu dimanche, on l'a compris, dimanche 4 juin, avec un deuxième tour le 18 juin.
Tout à fait, 18 juin, comme les Français métropolitains. Simplement pour les Français des Amériques, c'est toujours un jour plus tôt, donc c'est le 3 juin.
D'accord, voilà, si vous nous écoutez aux États-Unis. Une dernière question, parce que tant que vous êtes là, on va en parler. Le climat, on a appris plutôt une mauvaise nouvelle par rapport au retrait des Américains, entre retrait des États-Unis de l'accord de Paris, donc l'accord de la COP21. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? J'ai entendu pas mal de débats qui disent que bon, bah, finalement, c'est un peu comme le Brexit. Vaut mieux qu'il soit en dehors qu'à l'intérieur, en train de dynamiter tout de l'intérieur. Est-ce que c'est un peu une façon romantique de voir les choses, ça, ou pas?
Je répondrai de deux façons à votre question, Christophe. D'abord, c'est une opportunité pour Emmanuel Macron, de manière un petit peu, en termes de stratégie politique, de réaffirmer, de reprendre le lead ou de continuer à assurer ce lead sur ces questions-là en disant voilà, je respecte, il l'a dit, hein, je respecte la décision qui est souveraine du président des États-Unis d'Amérique. Maintenant, moi, mon projet, il n'est pas celui-là. Et avec la chancelière allemande, avec le gouvernement italien, avec d'autres dirigeants, je crois qu'il va recevoir, il va s'entretenir avec le dirigeant indien ce week-end, je vais continuer à travailler pour le climat. Et surtout, je ne négocierai pas un nouvel accord au rabais. Donc pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que ça lui permettra d'afficher son leadership sur la scène internationale. Au-delà de ça, en termes simplement de gouvernance par rapport au climat, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que d'abord, la présidence Trump, elle est temporaire. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui
faut
se passera
se le rappeler, hein, faut se le rappeler.
Qu'est-ce qui se passera dans 4 ans quand peut-être un nouveau leader gagnera les élections américaines? Et puis, vous l'avez dit, je crois qu'il y a 3 pays qui n'ont pas ratifié de mémoire l'accord de Paris. Il y a le Nicaragua parce qu'ils trouvaient que ça allait pas assez loin. Bon, il y a la Syrie parce que c'était un pays en guerre, et maintenant les États-Unis. Donc d'une certaine façon, il y a quand même un consensus mondial sur cette question-là. Évidemment, Emmanuel Macron l'a redit. J'aimerais que les Américains restent avec nous, et les Américains on sait qu'ils sont épris de liberté, de rationalisme, et j'appelle leur rationalisme également sur les questions environnementales. Mais maintenant, il dit voilà. Je respecte votre décision. Si vous n'êtes pas dedans, on vous convaincra de revenir dans cet accord de Paris. En tout cas, sachez qu'on continuera à travailler et qu'on continuera à promouvoir des améliorations pour la biodiversité, pour la lutte contre le réchauffement climatique, etc.
Donc le vrai défi, par contre, pour les personnes qui restent dans cet accord, c'est-à-dire 99% de la planète, c'est de s'assurer que la Chine et l'Inde ne sortent pas de cet accord. C'est le vrai défi. Parce que là, c'est éviter l'hémorragie. Et je pense que la diplomatie en action, ça va être ça. Ça va être d'éviter l'hémorragie, de s'assurer que les États-Unis restent les États-Unis. Et on fait la relation avec le Brexit, mais en fait, diplomatiquement, politiquement, c'est quand même assez lié parce que ben voilà, la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. L'enjeu de l'Europe, c'est de s'assurer qu'il n'y ait que eux qui sortent de l'Europe, qu'il n'y ait pas d'autres pays qui sortent de l'Europe. C'est un peu la même chose là.
Oui, et qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron au moment du Brexit? Il a dit les Anglais sortent de l'Europe, amis banquiers, financiers anglais.
Venez chez nous.
Venez chez nous. Les États-Unis sortent de l'accord de Paris. Scientifiques américains, venez chez nous. Donc c'est aussi pour Emmanuel Macron une manière de réaffirmer, très bien, encore une fois, je respecte votre décision, maintenant toutes les bonnes âmes, toutes les bonnes volontés qui veulent continuer à travailler sur cet accord, qui est important, sur ces problématiques qui sont essentielles, et il l'a dit, hein, pour cette génération-là, mais pour les générations futures, bah, venez, toutes les bonnes volontés sont admises, et puis on continuera le travail, et d'une certaine façon, même au sein des États-Unis, cette décision de Trump, elle fait pas du tout consensus. Et on l'a vu, Trump a dit moi, je travaille
pour l'ouvrier de Pittsburgh et pas pour les gens de
Paris. Et le maire de Pittsburgh, effectivement, lui a répondu je ne suis pas d'accord. Effectivement, là, il faut rester. Donc, d'une certaine façon, Emmanuel Macron, il dit les États-Unis, vous êtes souverain, vous vous débrouillerez avec ça, et on verra ce que ça va donner après en politique intérieure. C'est ça, c'est pas le problème d'Emmanuel Macron en politique intérieure américaine. Mais en tout cas, lui, Emmanuel Macron, il ne baissera pas la garde sur ces exigences-là, et on verra ce que ça va donner. Et effectivement, par rapport aux autres grandes puissances et aux gros autres blocs qui pourraient faire, pour le coup, chavirer le navire, Emmanuel Macron, il a tout de suite dit, voilà, je vais voir, je vais m'entretenir avec les dirigeants indiens, il fera sûrement de même avec les dirigeants chinois, et puis il va trouver une position commune européenne avec les principaux leaders pour continuer à travailler. Et effectivement, moi, je dirais plus que stopper l'hémorragie, continuer le travail sur cet accord-là, parce que ce qui a été signé en 2015, ce n'est que le début. Maintenant, les véritables solutions concrètes et les mises en œuvre opérationnelles, il l'a d'ailleurs dit, sont encore à faire complètement pour les prochains mois et les années à venir.
Voilà, on a fait le tour de la question. Merci Nathanaël, et toujours sympa de vous avoir dans nos studios.
Merci Christophe.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.